14. Maurice non plus n'a pas une minute à lui, et ça fait du bien d'être occupé. Tant qu'il est actif, ses doutes et ses frayeurs n'ont pas le loisir de s'insinuer. D'autant plus qu'il s'est réveillé avec une certitude absolue. C'est aujourd'hui qu'il devient pour de bon un loup. Il en a fini de rafistoler le système informatique obsolète du Mac pour que son gros connard de chef puisse se la péter auprès de son chef à lui. Et il en a fini de jouer le petit agneau de compagnie de Monsieur Ellis MacFarland aussi. Fini de bêler « Oui, monsieur, non, monsieur, tout ce que vous voudrez, monsieur » chaque fois que MacFarland débarque. Terminé l'approbation. Dès qu'il aura récupéré les carnets de Rothstein, il se taillera de cette ville de merde. Filer au nord, direction le Canada, ne l'intéresse pas. Mais il a le choix entre les 48 états inférieurs. Il se dit qu'il optera peut-être pour la Nouvelle-Angleterre. Qui sait, peut-être même le New Hampshire. Aller lire les carnets là-bas, près des montagnes même que Rothstein a dû contempler en écrivant. Voilà qui vous avez un certain panache littéraire, pas vrai? Oui, c'était précisément ça, la qualité supérieure des romans. Leur panache. Comment au final tout s'emboîter? Il aurait dû savoir que Rothstein ne pouvait pas laisser Jimmy travailler indéfiniment dans cette putain d'agence de pub, parce qu'il n'y avait aucun panache là-dedans, rien qu'une bonne grosse dose de laideur. Peut-être que tout au fond de son cœur, Maurice l'avait su. Peut-être que c'était ça qu'il avait gardé sain d'esprit toutes ces années. Il s'est jamais senti aussi sain d'esprit de toute sa vie. Quand son gros connard de chef verra qu'il n'est pas venu bosser ce matin, il préviendra sûrement MacFarland. C'est ce qu'il est censé faire en tout cas, en cas d'absence non justifiée. Maurice doit donc disparaître, passer sous le radar, éteindre les lumières. Parfait. Génial même. À 8h ce matin-là, il prend le bus dans Main Street, parcourt toute la ligne et descend tout au bout, dans Lower Main, où le bus repart en sens inverse, et il continue à pied jusqu'à Lacemaker Lane. Maurice a enfilé son seul blazer et noué sa seule cravate. Et ils sont en assez bon état pour coller avec le paysage, même s'il est encore trop tôt pour qu'aucune des boutiques huppées et prétentieuses soit ouverte. Il s'engage dans la ruelle qui sépare Andrew Halliday Rare Editions et la boutique voisine, la Bella Flora Children's Boutique. Il y a 3 places de stationnement dans la courette à l'arrière du bâtiment. 2 pour la boutique de vêtements et 1 pour la librairie. Une Volvo est garée côté Bella Flora. L'autre place est vide. Idem pour celle réservée à Andrew Halliday. Ça aussi, c'est parfait. Maurice repart du même pas alerte avec lequel il est arrivé, s'arrête pour jeter un coup d'œil réconfortant à la pancarte fermée, suspendue à l'intérieur de la porte vitrée de la librairie, et poursuit son chemin jusqu'à Lower Main, où il attrape un bus vers le nord de la ville. 2 changements plus tard, il descend devant le centre commercial Valley Plaza, à 2 blocs du domicile de feu Andrew Halliday. Il marche de nouveau d'un pas alerte, comme s'il savait où il se trouve, où il va, et qu'il avait tous les droits d'être là. Coleridge Street est quasi déserte, ce qui ne le surprend pas. Il est 9h15. Son gros connard de chef doit en ce moment même regarder le bureau inoccupé de Maurice et fulminer. Les mômes sont en classe. Les papas et mamans travailleurs sont en train de se casser le cul pour ne pas laisser la dette se creuser sur leur carte de crédit. La plupart des livreurs et des fournisseurs de services ne commenceront à circuler dans le quartier qu'à partir de 10h. Le seul autre meilleur moment serait les heures assoupies du milieu de l'après-midi. Mais il ne peut pas se permettre d'attendre si longtemps. Trop d'endroits à voir, trop de choses à faire. C'est le grand jour de Maurice Bellamy. Sa vie a pris un long, long chemin de traverse, mais aujourd'hui, il est pratiquement revenu sur la piste principale.